Est-ce que vous avez votre Bible ce matin? J'aimerais savoir si vous avez votre Bible. Vous pouvez l'avoir? Votre Bible, elle est vôtre? Ou bien vous l'avez empruntée ce matin? Elle est vôtre? Bon, même si vous l'avez empruntée, mais vous avez quand même une Bible ce matin. Amen. Oh, amen. Il faut avoir sa propre Bible, c'est très important. Quelqu'un dit, celle-ci c'est ma Bible. Est-ce que tu as ta Bible entre tes mains? On y va. Celle-ci, c'est ma Bible. Et je crois fermement qu'elle est la parole de Dieu. C'est par elle que je suis devenu enfant de Dieu. Et que c'est par elle que je vais progresser et prospérer. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'aurai ce qu'elle dit que j'aurai. Je crois en elle et il en sera ainsi dans ma vie. Ce matin, je veux recevoir cette parole, qu'elle me change, qu'elle me transforme, qu'elle me guérisse, qu'elle me restaure au nom de Jésus. Et nous disons ensemble amen. Dieu soit béni. Vous pouvez reprendre votre place. Et ce matin, avant de prendre notre texte ou nos textes qui vont faire l'objet de notre intervention, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Jacques. Je vous en prie. Jacques, chapitre 1er, verset 22 et le suivant. Chapitre 1er de Jacques, verset 22 et le suivant nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Oh, amen. Celui-là sera comment? Heureux dans son activité. Vous savez, de plus en plus, je réfléchis à la marche de la chrétienne, pas seulement par rapport à notre église, mais d'une façon générale, je me pose des questions. Est-ce les enfants de Dieu, nous comprenons ce que Dieu attend de nous? Est-ce que d'abord nous recevons la parole? Et quand nous la recevons, nous avons reçu un message dimanche passé et le dimanche d'avant. Qu'avons-nous fait de ces messages? Nous recevons des messages ici, des enseignements, mercredi. Est-ce que d'abord nous sommes pressés de venir recevoir cet enseignement? Nous aimons les farfelus, nous aimons les tralala, et nous négligeons la parole de Dieu, et oubliant que ce ne sont pas ces tralala qui peuvent apporter la faveur de Dieu dans notre vie, mais c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, là encore une fois, c'est mon devoir de pouvoir réveiller quelqu'un en disant qu'il ne suffit pas de venir ici, il ne suffit pas de venir. C'est une très bonne chose que de venir ici, mais quand tu as reçu la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Pourquoi un jour quitter ce monde, aller en enfer, pour avoir passé tout son temps dans une église, mais aller en enfer quand même? Aller en enfer quand même. C'est la parole de Dieu qui nous prépare à ce rendez-vous, le rendez-vous du ciel. C'est la parole de Dieu. Si nous la négligeons, nous négligeons, bien-aimés, notre vie éternelle, nous négligeons notre éternité. Et ce matin, peut-être avec le dimanche qui va suivre, je ne sais pas, on va voir, nous voulons partager autour de ce thème. Au fait, nous avons eu un séminaire ici en 2013, autour de ce thème, l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et quand j'intervenais, parce qu'il y avait des orateurs, quand j'intervenais, je disais, moi, je suis quelqu'un de la maison, je suis la mère qui prépare la cuisine ici dans cette maison, je peux revenir à n'importe quel moment. L'héritage. Y a-t-il un héritage pour les serviteurs de l'Éternel? Oh oui. Oh oui, il y a un héritage. Je dirais, il y a même des héritages. L'héritage réservé aux serviteurs de l'Éternel. Je vais nous proposer d'entrer du jeu deux textes ce matin. Le tout premier dans Ésaïe 54. Vous êtes habitués de ce texte. 54 à partir du verset 13. Le second est dans Josué. Josué chapitre 24. Du 14e au 18e. Nous lisons d'abord le tout premier. Ésaïe 54, à partir du verset 13. Il est écrit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est Dieu qui parle. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Oh, Alléluia. Dieu s'adresse à quelqu'un qui était comme malheureux au départ. Parce qu'au verset 11, on nous dit, d'abord au verset 10, il dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour, Dieu dit, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. De qui parle-t-on là-bas? Du serviteur de l'Éternel. De celui qui a pris l'engagement de servir Dieu toute sa vie. Notre vie doit être un service. Notre vie doit être au service. Un service et au service de Dieu. Et Dieu dit, les montagnes peuvent s'éloigner, les collines peuvent chanceler, mais mon amour ne s'éloignera pas de toi. Oh, amen, amen. Mon amour ne s'éloignera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Tu as été malheureux, on dit malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Amen, amen. L'antimoine, c'est cette matière qui vient pour pouvoir solidifier quelque chose qui était faible, qui vient solidifier, qui vient durcir. Et Jésus-Christ est l'image de l'antimoine. Oh, amen, amen. Il vient pour pouvoir nous fortifier, nous qui étions faibles. Ainsi, nous pouvons dire, il peut être dit de nous que les faibles disent, je suis fort, et que les pauvres disent, je suis riche, et que l'aveugle puisse dire, j'ai pu voir, quelqu'un dit Amen. Oh, Alléluia. Il a dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. C'est aussi un héritage. Tes fils seront disciples. Je les réclame à cri, à corps et à cri. Je les réclame à Dieu. Seigneur, tu m'as promis en disant que mes fils ne vont pas s'égarer. Mes enfants ne vont pas s'éloigner de toi. Mes enfants seront disciples de l'Éternel. Ça, c'est dans l'alliance avec Dieu. J'ai choisi de marcher avec lui. J'ai choisi de le servir. Et mes fils doivent rester disciples de l'Éternel. Où qu'ils aillent, aucun ne doit s'éloigner de Dieu. Oh, amen, amen. Ils doivent servir Dieu toute leur vie. Parce que, bien aimé, c'est ce qu'il y a de mieux, servir l'Éternel. Avoir Dieu pour appui. Avoir Dieu comme refuge. Avoir Dieu comme bouclier. Mais l'avoir aussi comme soleil, comme il nous a été dit dans Psaume 84, verset 12. Il est un soleil, un bouclier. Alléluia. Le deuxième texte, c'est celui de Josué. Josué au chapitre 24, à partir du verset 14, il est écrit ceci: maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. J'aime comment Dieu nous retrouve toujours dans la pensée qu'il nous donne. Il dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec quoi? Avec intégrité et fidélité. Quand on sert Dieu, on ne doit pas le servir n'importe comment. On doit le servir avec intégrité et fidélité. Il ne suffit pas de servir Dieu. Tout service qui n'est pas accompagné d'intégrité et de fidélité est nul. Oh, il est nul. Il n'a, je dirais en lingala, il n'a aucun litomba. Litomba mon côté. En fait, faut pas aller chercher aucun litomba dans un dictionnaire français. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelqu'un dit amen. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ces pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Voilà la réaction du peuple à l'appel de Josué. Il dit, non Josué, pas seulement toi et ta famille, mais nous aussi nous nous engageons à servir l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Il dit, nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. S'il est votre Dieu, vous êtes appelés à le servir. Amen, amen. Ils disent, nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Nous ne sommes pas étrangers à ces dieux-là. Nous sommes son peuple. Et un peuple qui lui appartient est appelé à le servir. À servir Dieu. Quelqu'un dit amen. Josué, c'est le tout premier cas que nous sommes en train de voir. Celui-ci est père d'une famille bien identifiée et leader de tout un peuple sur ordre de l'Éternel, Josué. Quand vous lisez le tout premier chapitre de Josué, Dieu qui voyageait avec Moïse, qui cheminait avec Moïse, va prendre la parole à la mort de Moïse. Là, il dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme... je l'ai dit à Moïse ainsi de suite. » Josué est choisi par Dieu en remplacement de son serviteur, le serviteur de Dieu Moïse. Josué qui était serviteur de Moïse, désormais il passe d'étape, il change de cap, il va servir Dieu, il va avoir une relation directe avec Dieu. Il servait Dieu par l'entremise de Moïse, désormais il va directement servir Dieu et Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi maintenant. Alléluia. Je disais qu'il était père d'une famille bien identifiée en Israël, mais au leader également de tout un peuple sur ordre de l'Éternel, Josué. Ce texte de Josué, c'est un texte qui ressort clairement l'engagement d'un père avec un effet immédiat. sur toute sa famille, sur toute sa maison. Un effet immédiat. Lors de notre séminaire, on nous a dit trois choses. Que notre Dieu est celui qui rémunère, premièrement. Notre Dieu est celui qui rémunère. Il est celui qui récompense. Mais il est aussi celui qui gratifie celui qui le sert. Quand on sert Dieu, Dieu est ton rémunérateur. Alléluia. Notre Dieu est celui qui rémunère. Il est celui qui récompense. Parce que celui qui sert Dieu reçoit la récompense de la part du Seigneur. Mais il est aussi celui qui gratifie. Deuxième chose, cet héritage que Dieu réserve à ses serviteurs, il nous a été dit que cet héritage nous touche à deux niveaux. Premièrement, nous-mêmes d'abord. Ensuite, il touche à notre postérité aussi, c'est-à-dire nos enfants. La troisième chose qui nous avait été dite, c'est que celui qui aime ses enfants, le plus grand héritage qu'il puisse leur laisser, c'est de servir l'Éternel. Oh, on peut bien faire deux choses. Travaille pour donner tout ce que tu peux donner comme héritage. Mais quand vous lisez la vie de David, à la fin de ses jours, il ne dit pas à Salomon, voici, j'ai laissé tel compte en banque, voici j'ai laissé autant d'argent, voici j'ai laissé autant de têtes dans mon troupeau. Et pourtant, David avait tout ça. Mais il ne parle pas de tout ça. Mais il laisse comme héritage à Salomon le Dieu qu'il a servi. Lisez bien la Bible. David était un homme riche, David, ce n'est plus le David de la fin de sa vie, ce n'est pas le David dans la maison de Isaïe, une petite famille, pauvre famille, non. C'était un roi, et le roi a des droits, et il a gagné pas mal de choses, David. Mais il ne parle pas de toute cette richesse-là. Il dit à Salomon, il dit, je m'en vais par les chemins de tout le monde, mais prends garde, reste en train de servir le Dieu que j'ai servi. Attache-toi à sa parole. Voilà l'héritage. L'héritage pour celui qui aime ses enfants, le plus grand, j'ai dit le plus grand héritage, qu'il puisse leur léguer, qu'il puisse leur laisser, c'est de servir l'Éternel. Car lorsque tu sers Dieu, tu ne compliques pas la vie de tes enfants. Oh, amen, amen. Tu n'attires pas la malédiction sur la vie de tes enfants. Lorsque tu sers Dieu, c'est la gloire de Dieu qui t'accompagne. Sur tout ton parcours, la lumière de Dieu t'éclaire. Et cette lumière qui t'a éclairé va éclairer tes enfants. Oh, alléluia. Alléluia. Josué dit, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Une famille normale est composée d'un père et d'une mère, mais aussi les enfants. Les parents, papa et maman, sont appelés à se placer l'un à côté l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ils constituent ainsi un garde-fou pour les enfants. Même s'ils ne se tiennent pas, ils ne se marchent pas avec les enfants tous les jours en les mettant au milieu, mais spirituellement parlant, papa est à côté d'un côté et maman est de l'autre, constituant un bouclier pour les enfants. Amen, amen. Ceux qui servent Dieu deviennent un bouclier pour leurs propres enfants. Très souvent, la sécurité des enfants dépend de celui des parents. La sécurité des enfants, très souvent, dépend de celui des parents. S'il y a des parents sécurisés, les enfants les seront aussi. Et le seul qui peut sécuriser la vie de quelqu'un, c'est Dieu. Oh, alléluia. Je veux dire que quand les parents sont en sécurité, leurs enfants les seront également. Proverbe 14, verset 26 nous dit que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel, lui, possède un appui ferme. Mais ses enfants ont un refuge auprès de lui. Lui a possédé un appui ferme parce qu'il craint l'Éternel, parce qu'il sert l'Éternel. Mais désormais, lui qui a possédé un appui ferme, désormais auprès de lui, les enfants trouvent un refuge. Est-ce que tu es un refuge pour tes enfants, papa, maman? Es-tu un refuge pour tes enfants? Jeunes gens, vous qui rêvez le mariage, vous qui rêvez fonder votre famille, est-ce que vous vous préparez à avoir un appui pour que demain, vous ayez, les enfants que vous aurez puissent trouver un refuge auprès de vous? Ou bien vous vivez comme des irresponsables? Quelle est la qualité de votre service? La qualité du service que vous rendez à Dieu? Dans ce passage de Proverbes 14 et 26, pris dans la version sémère, on nous rend ceci. On dit, celui qui révère l'Éternel possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants. Il possède une solide assurance et il sera un refuge pour ses enfants. Le choix que tu fais personnellement de craindre l'Éternel, le choix que tu fais personnellement de servir l'Éternel, te fait posséder un appui ferme auprès de Dieu. Oh, alléluia. Te fait posséder un appui ferme. Ton choix de révérer l'Éternel t'accorde une solide assurance auprès de Dieu. Par conséquent, tu deviens un refuge pour tous tes enfants. Tu deviens un refuge. Alléluia. Oh, alléluia. Ne devenez pas un danger pour vos enfants. Vous pouvez ne pas dire que vous êtes un danger, mais votre vie de tous les jours, celui que vous servez, c'est Dieu ou c'est quelqu'un d'autre? Et si vous servez l'Éternel, vous n'êtes pas un danger. Vous, auprès de vous, vos enfants trouvent un refuge. Alléluia. Peux-tu dire en te frappant la poitrine en disant, pour mes enfants, moi je suis un refuge? Peux-tu le dire? Suffit pas. Pour le dire, il faut voir quelle est la vie que tu mènes. Quelle vie que tu vis, passez-moi ton logique, quelle vie que tu vis. Qui est-ce que tu sers? Et même quand tu es devenu toi-même un enfant de Dieu, tu t'es consacré à Dieu. Mais est-ce que ta vie de tous les jours est un sacrifice pour Dieu? Est-ce que c'est ta vie de tous les jours est un service? Exploitant les textes de Matthieu 7, lors du séminaire, il nous a été dit que le meilleur service que nous pouvons rendre à Dieu, c'est d'abord celui d'être connu de Dieu. Amen, amen. C'est d'abord celui d'être connu de Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre ce passage de Matthieu 8, 7, 21 et le suivant. Il est dit que ceux qui me disent, c'est Jésus qui parle, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'interromps pas tous dans le royaume des cieux. On a dit tous, parce qu'il y a certains qui disent Seigneur, Seigneur avec raison, parce qu'ils craignent Dieu. Mais il y a aussi des farceurs qui disent Seigneur, c'est mon Seigneur, alors qu'en réalité, ils n'ont pas donné à Jésus dans leur vie la place du Seigneur. Oh, amen, amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'interromps pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelqu'un dit amen. Retirez-vous de moi. Vous voyez? C'est pour dire que le service que nous pouvons rendre, il nous faut rendre le service à Dieu. Mais le service que nous pouvons rendre à Dieu qui sera utile, c'est le service qui est rendu par quelqu'un d'abord qui s'est engagé lui-même à vivre une vie qui honore le Seigneur. Si je n'honore pas le Seigneur avec ma vie de tous les jours, même si je rends service dans la maison de Dieu, ce service-là n'a aucun sens. Ce service-là n'a aucun sens. Il ne sert à rien. Ce service-là, au lieu de me bénir, ce service-là commence à me maudire, il devient un danger pour ma vie. Est-ce que je suis consacré à Dieu? Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Ce qui sera un sacrifice vivant et agréable. Ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Romains 12, chapitre 12, verset 1er. Est-ce que nous sommes consacrés à Dieu? Bien-aimés, on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas consacré à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le feu peut tomber sur toi et te consumer. Si tu sers Dieu à la manière des fils du sacrificateur Élie, la mort peut te surprendre. On ne se moque pas de Dieu. Oh, alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ceci ne veut pas dire que non, retire-toi du service. Non, Dieu ne veut pas que tu te retires du service. Dieu veut que tu te retires de la mauvaise vie. Et que tu restes en train de le servir dans sa maison. Dieu ne te demande pas de te retirer du service que tu lui rends. Dieu veut que tu puisses te retirer de la mauvaise vie. Afin que ton service soit un service de qualité. Oh, alléluia. Alléluia. Dans Actes 16, verset 30, les joailliers qui étaient un père de famille, ayant réalisé son état d'âme de perdition, demanda à Paul et à Silas, Seigneur, quand on parle de Seigneur ici, il parle, il dit, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Autrement dit, que faut-il que je fasse pour être connu de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être connu de lui? Et au verset 31, Paul et Silas répondirent à ses joailliers, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si en tant que père, tu crois aujourd'hui, tu deviendras un modèle de foi, un exemple à suivre pour toute ta famille. On ne veut pas dire ici que une fois que le joaillier aura cru au Seigneur, automatiquement, même si ses enfants mènent une vie n'importe qui, ne s'engagent pas eux-mêmes, ils sont sauvés. Non, on veut dire qu'il y a possibilité, une fois que tu es sauvé, il y a possibilité que les tiens soient aussi sauvés. Parce qu'avec toi, le salut va entrer dans ta maison. Tu reviendras à la maison, non pas comme tu étais sorti, mais tu reviendras différent, transformé. Car il est écrit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous transforme réellement. Nous qui sommes faits de terre, nous sommes faits de terre, comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, si ma mémoire est bonne, ou chapitre 3, où nous sommes faits de terre, mais en nous habite un trésor. Jésus, c'est le trésor qui vient habiter en nous. Lorsque nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, il vient habiter dans nos cœurs. Nous sommes faits de terre, mais une valeur intrinsèque est au-dedans. Oh, alléluia. Et lorsque nous revenons au contact au contact de nos enfants, au contact de mon mari, au contact de ma femme, au contact de celle de ma maison, il y a possibilité, à cause de la transformation que moi j'ai connue, quand ils m'observent et ils entendent la parole qui m'a transformé, et aussi se disent, pourquoi ne pas s'engager avec le Dieu qu'il a accepté? Nous aussi nous nous engageons. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est différente de la religion. La vie chrétienne n'a rien à voir avec une religion. Une religion, c'est pour se calmer la conscience. Amen, amen. Vous voyez combien cette religion-là, combien il s'entretue et il s'entretue et même il commence à dire, vous n'êtes pas la religion. Je ne vais pas citer de nom. Vous n'êtes pas des nôtres. Les autres qui vont placer des bombes à gauche et à droite et qui se dépiècent, on leur a dit que quand tu te dépièces comme ça en tuant aussi les autres, tu entres au ciel directement. Et on te réserve 70 vierges. Ça, ce n'est pas être impudique. On pense qu'au ciel, on va être des impudiques. Dieu n'a rien à faire que de te réserver 70 vierges au ciel. Non, le christianisme est tout à fait différent de la religion. Oh, amen, amen. Oh, alléluia. Paul et Silas vont dire à ces messieurs, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si en tant que père, tu crois aujourd'hui, tu deviendras un modèle de foi. Et Josué va prendre un engagement public et responsable en son nom et en celui de toute sa famille, disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je l'ai dit une fois ici, en bon français, normalement, on dirait, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Mais attention, Josué ne commet pas de faute ici. Il est question d'un engagement. Il s'engage, lui, d'abord, en tant que père. C'est lui le chemin, c'est lui la tête, c'est lui qui doit montrer la voie. Il s'engage d'abord et il veut que toute sa maison soit entraînée dans son choix. Il est convaincu que son choix est bon. Il est convaincu qu'il est en train de choisir la bonne chose. Il choisit la bonne part. Et comme lui s'engage, il a possibilité en tant que père d'entraîner sa maison. Moi et ma maison. Moi d'abord. Alléluia. Alléluia. Moi d'abord. Je suis le père. Je suis aussi, je veux devenir aussi le pasteur de cette petite église qui est ma famille. Combien d'hommes sont capables de conduire des moments de prière dans leur maison? Combien? Vous les entendez dire, non chérie, toi, fais ça chérie. Donc, ce n'est pas elle qui a été d'abord établie pasteur dans cette famille-là. C'est toi, homme, qui a été établi chef. Quand tu as chef, tu veux être chef. Et tu veux être chef à la manière des Congolais, brimant les autres, écrasant les autres. C'est moi qui suis chef ici. Comment tu peux prendre la parole avant moi? Mais maintenant, on te dit, prends la parole au culte familial. Prends la parole. Oh, on m'a dit d'insister. J'insiste. Amen, amen. Le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on ne s'engage pas avec Dieu. On ne se prépare pas. On ne lit pas constamment la parole de Dieu. Les choses de Dieu, on les a reléguées au second plan. C'est la femme qui est engagée. Ce sont les enfants qui sont engagés. Maintenant, comme on arrive au temps du culte, on démontre réellement que non, moi j'ai légué ces choses au second plan. Laissez-moi aussi au second plan. Vous allez en avant diriger le programme. On peut déléguer ces pouvoirs-là un jour, mais pas toujours. Oh, amen, amen. Josué dit, moi d'abord. Amen, amen. C'est moi d'abord. Moi, je m'engage d'abord. Et tous les souhaits de mon cœur, toute ma prière, c'est que ma famille me suive sur ce parcours-là. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur dit, quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel, notre Dieu. Et servir l'Éternel implique d'abord, premièrement, le fait de l'avoir choisi comme Dieu et guide de ta propre vie et d'être connu de lui. L'avoir choisi comme référence de ta vie. Tu ne peux pas passer à une autre vitesse si tu n'as pas connu ça. Servir Dieu implique d'abord le fait de l'avoir choisi comme Dieu et guide de ta propre vie et d'être connu de lui. Est-ce que tu es connu de Dieu? L'avoir choisi comme référence de ta vie, Dieu est-il ta référence? Deuxième chose, servir l'Éternel implique le fait, c'est, au fait, servir l'Éternel veut dire c'est décider de marcher sur ses traces, les traces du Seigneur, d'être son imitateur. Il suffit pas de dire j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et puis quand tu commences à vivre demain, oh, tu ne marches pas sur les traces du Seigneur. Non. Marcher sur les traces du Seigneur, être imitateur du Seigneur. Troisièmement, un jour, avant d'aller au troisième niveau, Paul ne dit-il pas en disant que soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Et il poursuit en disant que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Être imitateur de Christ. Troisièmement, servir l'Éternel, c'est avoir un témoignage qui honore son nom. C'est lui être agréable. On ne peut pas servir l'Éternel sans avoir un témoignage qui l'honore. Ces peuples m'honorent debout de l'œuvre. C'est Dieu qui parle. Leur cœur est éloigné de... Leur cœur est éloigné de moi. C'est ton cas? Troisième, donc, je disais, servir l'Éternel, c'est avoir un témoignage qui honore son nom. C'est lui être agréable. Quatrièmement, c'est l'adorer. Le louer dans toute sa vie. Adorer, louer Dieu toute sa vie. Être serviteur de l'Éternel. L'aimer tout son être. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aimer Dieu, adorer, le louer dans toute ta vie. Cinquièmement, servir l'Éternel, c'est considérer les intérêts de Dieu et savoir les défendre. Considérer les intérêts de Dieu et savoir les défendre. Est-ce que nous considérons les intérêts de Dieu? Est-ce que nous plaçons les intérêts de Dieu avant le nôtre? Regardons notre marche de tous les jours. Pensez à la semaine qui s'est passée. Comment est-ce que nous avons vécu? Avons-nous défendu les intérêts de Dieu? J'aurais voulu poser la question et donner le micro baladeur à tout le monde ici. Dis-moi, qu'est-ce que cela que tu entends par défendre les intérêts de Dieu? Est-ce que nous venons à l'église dimanche juste pour... parce qu'en fait, les Congolais sont foncièrement religieux. Hein? Ils sont foncièrement religieux. Dimanche matin, c'est... Non, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Parce qu'on est religieux, on aimerait quand même aller quelque part. Je ne suis pas quand même un païen. Je suis né dans une famille où 100% ceci et où c'est 100% cela. Et dimanche matin, on aimerait quand même aller quelque part où on fait un peu le sérieux. On fait le Moussantou. 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 Et quand on a fini de faire le Moussantou, on est sorti, allez, c'est fini. On a enlevé cette tunique. Et bien on revient donc, comme disait le président tanzanien Nyerere, qui disait quand il arrivait, il descend à notre aéroport, il dit à son collaborateur de faire attention. Il dit, ah, watu nuwajanja. Il dit, fais attention, watu wazawa mona kelele watakotoyo. Donc, tu deviens un mujanja. Après avoir fait les Moussantou. Tout le monde est en train de corrompre, toi aussi tu corromps. Et tu dis que tout le monde le fait. Tu es injuste dans les affaires avec les autres. Tu empruntes de l'argent et tu ne sais pas retourner cela. Quelqu'un dit, pasteur, oui, oui, c'est l'esprit qui m'amène là-bas. Tu prends l'argent, tu commences à fuir. Tu commences même à dire à tes enfants, dites que papa n'est pas là. Au point que même les enfants, quand ils disent, papa nous a dit de dire que il n'est pas là. Mujanja. Après avoir fait les Moussantou. Bien-aimé dans le Seigneur. Servir l'Éternel, c'est considérer les intérêts de Dieu et savoir les défendre. Pouvons-nous nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu? Pouvons-nous nous dire, je suis fatigué, mais j'irai dans la maison de Dieu parce que c'est le temps d'aller dans la maison de Dieu? Pouvons-nous dire que je suis fatigué, j'ai travaillé durement la journée, mais aujourd'hui c'est le jour où je dois écouter la parole de Dieu pour nourrir mon âme, c'est mercredi, je dois être dans la maison de Dieu. Pouvons-nous nous sacrifier de la sorte? Est-ce que nous plaçons les intérêts de Dieu en priorité? Nous allons toujours d'excuse en excuse. Il y a même d'autres, quand ils voient qu'ils commencent à sombrir vers 14h30, 15h, 16h, ils font même une prière sans la faire. Mboulo Ekita. Et s'il avait à 19h? Comme ça, il va avoir une conscience tranquille. Il a plu. Savez-vous que la pluie ne peut pas arrêter les gens sous d'autres cieux? Oh, amen, amen. Il suffit qu'il y ait une petite pluie, on trouve l'excuse pour ne pas venir écouter la parole de Dieu, pour ne pas chercher la face de Dieu. Mais on s'est dit enfant de Dieu, on veut recevoir les faveurs de Dieu, on veut recevoir l'héritage, sans avoir travaillé pour cet héritage-là. Combien sont ceux qui sont prêts à se séparer de leur argent pour soutenir l'œuvre de Dieu? Combien? Ils sont combien qui peuvent comprendre que la dîme, ce n'est pas ma propriété, c'est la propriété de Dieu. Et même quand nous parlons comme ça, nous n'avons pas la foi parce que lui a pris l'argent, il a bouffé. La dîme ne t'appartient pas. Quand tu offres, quand tu donnes ton offrande, tu donnes combien? Tu choisis quoi? Tu peux te dire de toi-même, dans ton cœur, en disant que ça, c'est vraiment un témoignage profond de mon amour pour Dieu. Ou bien, tu peux te dire maintenant, mon offrande ici, c'est une façon de me moquer de Dieu. Il y a un héritage pour ceux qui servent l'Éternel. Oh, alléluia. Il y a un héritage. On peut tout dire. On peut se moquer de ceux qui servent le Seigneur. On peut les considérer comme étant des humains. Mais Dieu les récompensera. Alléluia. Dieu les récompensera. Dieu récompense ceux qui le servent. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sixièmement, servir l'Éternel, c'est faire quelque chose pour faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce que je fais quelque chose pour faire avancer le royaume de Dieu? Est-ce que je parle de Jésus dans mon entourage? Il y a un message verbal, un message parlé, mais il y a aussi un message vécu que je transmets. J'évangélise par la parole, j'évangélise aussi par ma vie. Et quand je fais avancer le royaume de Dieu. Quand je suis une âme qui est venue la première fois à l'église, je la suis, je vais la suivre à la maison, juste pour quelques 20 minutes, demander comment elle va. Je prie avec elle, je demande s'il y a-t-il une requête en famille. On prie et cette âme est touchée. Elle dit, ah, on m'a suivi jusque chez moi. Et cette âme revient, elle dit, non, je vais rester dans cette église. Et cette âme, non seulement qu'elle reste à l'église, mais reste attachée à Jésus-Christ. Tu as fait avancer le royaume de Dieu. Je me souviens moi-même, quand je me suis converti, j'habitais Lemba. J'étais étonné. Nous sommes déplacés tout de suite. Nous sommes allés vers Lemba Salongo. Lemba Salongo, c'est le quartier en face des bonhommes. Mais les encadreurs de la jeunesse, m'ont suivi jusque là-bas. Waouh! Ils viennent de Mbinza Yupen. Ils m'ont suivi jusque là-bas. C'était une sœur et un frère. Ce n'est pas étonnant que je sois resté attaché à ses frères, pasteur Kioni. On commençait à nous appeler comme un peu comme des jumeaux. Et quand il faisait un travail, il voulait que là où il fait le travail, je sois aussi avec lui. C'est ainsi que nous avons dirigé ensemble la cellule de la cité Maman Mobutu. Ah, j'ai béni la cellule de la cité Maman Mobutu. Soit dit en passant, c'est là que j'ai découvert aussi la femme de ma vie. C'était en passant. Nous avons servi ensemble. Que ce soit la cellule, que ce soit la jeunesse. J'étais resté attaché. Qu'est-ce qui m'a fait que je sois resté? Pourquoi? Le geste, il est venu jusque là. Waouh!
Frères, sœurs, est-ce que nous faisons avancer le royaume de Dieu? Si tu fais avancer le royaume de Dieu, Dieu te suivra dans tes entreprises. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tel est l'engagement d'un père. En l'occurrence, ici, Josué. Ceux qui sont ainsi au service de Dieu éveillent l'attention de ces dieux-là sur leur propre vie et sur leurs propres intérêts. S'adressant au peuple, Josué dit au verset 15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Choisissez, faites le choix. Savez-vous que notre vie est une succession de choix? L'habit que vous avez porté là, c'est une conséquence du choix. C'est pas vrai? Il y a même d'autres qui ont l'embarras du choix, surtout les femmes. Elles vont dans leur garde-robe, elles ouvrent et disent, vous entendez une femme, il n'y a pas un habit ici. Il n'y a pas d'habit, c'est plein. Mais elle dit qu'il n'y a pas d'habit ici. Oh, heureusement que nous sommes des hommes, alléluia. Oh, nous pouvons rester avec un costume pendant 5 ans, ça ne nous dit rien. Mais une femme, on a déjà vu deux fois, on a vu ça. Il n'y a pas d'habit ici. Quoi? Il n'y a pas d'habit. Mais quand on tire comme ça, ça tombe en gras. Mais il n'y a pas d'habit. C'est ça la femme. Tu ne peux pas la changer. Il faut l'accepter comme ça. Oh, amen, amen. Il faut l'accepter comme toi aussi. Écoute, j'ouvre une parenthèse. La femme, c'est comme ça. C'est ça la femme. Oh. Tu veux que. Oh non, mais comment? Moi, est-ce que moi j'ai acheté? Ça fait 2 ans, je n'ai pas acheté d'habit. Toi, c'est toi. Elle doit acheter tous les 3 mois, 5 mois. Elle doit acheter. Sinon, elle cesse d'être femme. Oh. On ne dira pas de toi, on ne dira pas de toi que non, tu es comparable à une fleur. Non. Toi l'homme là. Non. Nous devons accepter ça comme ça. Nous ne sommes pas des fleurs. Oh. Faut pas souffrir. Oh, nous ne sommes pas des fleurs. Maintenant, Dieu t'a envoyé un ministère de quoi? De conditions masculines. Non, non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'y en aura pas. Mais il y a condition féminine. Oh, amen, amen. Dieu a fait les choses comme ça. Elle, c'est une fleur. La fleur, elle reste constante. Ça, ce n'est pas une vraie fleur. Ça fait plusieurs semaines, c'est toujours ça. Sinon, elle devrait faner. Mais une fleur, ça finit par... Hein? C'est pourquoi il faut la renouveler. C'est ça, la femme. Oh, amen, amen. Vous verrez une femme avec des mèches bien là sur la tête. Mais on les défait. Dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est... Oh non, c'est... On a déjà vu ça plusieurs fois. Notre vie, c'était la parenthèse, j'ai fermé. Notre vie est une succession de choix. Faisons le choix les meilleurs. Choisissons bien. Et le premier de choix, c'est de choisir Dieu et choisir de le servir. Et si nous servons Dieu, la récompense nous suivra. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La récompense nous suivra. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis étonné de voir dans l'église des gens qui sont là 10 ans. Ils ne font rien. Ils sont des patrons. Quand ils viennent, vous voyez vraiment que c'est un patron. Il a accompagné sa femme, il est là. L'affaire de Dieu, ce n'est pas leur affaire. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, si vous compreniez que ce que vous êtes, c'est Dieu qui vous a fait, vous servirez le Seigneur. Vous servirez l'Éternel. C'est parce que vous n'avez pas compris, vous pensez que vous êtes devenu ce que vous êtes par vous-même. C'est pourquoi vous ne servez pas Dieu et vous allez servir le monde. Mais nous avons compris que tout ce que nous sommes, c'est Dieu. C'est pourquoi nous servons le Seigneur. Oh, alléluia. Si tu sais que tout ce que tu es et tout ce que tu as, c'est de Dieu que tu tires cela, tu serviras l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous voulons courber nos têtes dans la prière. Nous sommes en train de terminer notre culte. Cette parole que tu viens d'entendre alors que tes yeux sont fermés, cette parole que tu viens d'entendre, quel sort vas-tu réserver à cette parole? Quel est l'engagement que tu vas prendre après avoir entendu ces messages? Tu vas balayer cela de la revers de la main en disant c'est d'autres choses dont j'ai besoin? Ou est-ce que tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi, je vais m'engager avec toi et je vais m'engager à te servir? Le premier appel que je lance, c'est vers celui qui n'a jamais accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Tu ne peux pas continuer à venir dans la maison de Dieu sans avoir pris cet engagement-là de servir Dieu, de te donner à Jésus, d'abandonner le monde, de confesser tes péchés et de dire non au monde en disant oui à Jésus. Si c'est ton cas, que tu sois au bâtiment administratif dehors ou ici, veux-tu te lever là où tu es? Et nous aimerions prier pour toi et avec toi. Je ne vais pas insister. Tu n'as jamais accepté Christ et aujourd'hui tu veux le faire. Tu n'as jamais abandonné le monde et aujourd'hui tu veux le faire. Tiens-toi debout. Nous prierons pour toi et avec toi. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de faire le choix. Dieu te rappellera cet appel qu'il te lance aujourd'hui en disant que je t'avais lancé l'appel ce jour-là. Tu l'avais négligé. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas négliger l'appel du Seigneur? Tu veux accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, tiens-toi debout et nous prierons pour toi. Tu veux confesser, tu veux abandonner le monde. Dieu n'a pas d'autre terme à t'exposer si ce n'est ces pensées-là. Lève-toi et nous prierons pour toi. Nous voulons demander aussi à celui qui s'est dit, je suis venu très longtemps dans la maison de Dieu, je connais Dieu mais je ne le sers pas, mais je vais m'engager à le servir. Tiens-toi debout là où tu es, nous voulons prier pour toi. Et nous voulons prier pour toi et avec toi. Merci. Quelqu'un qui se lève pour dire, je m'engage pour être au service de Dieu. Je m'engage pour honorer Dieu, donner de mon temps, donner de mon intelligence, je vais servir Dieu. Seigneur, je t'apporte ces amis. Honore leur engagement. Seigneur, ils se sont levés parce que du fond de leur cœur, ils ont pris un engagement. Je te prie, Seigneur, de les agréer et de bénir leur vie. Glorifie-toi, Éternel. Au nom de Jésus, nous prions. Ensemble, nous disons Amen. Nous pouvons acclamer Dieu pendant que les amis reprennent leur place.